Bonsoir, entrons ensemble dans le temps du débat, un temps du débat consacré ce soir au vaccin contre la Covid. À l'ordre du jour ce soir, le vaccin signerait-il un échec de la recherche française à l'heure où la vaccination contre la Covid démarre timidement en France et où le laboratoire Pfizer annonce des retards dans la livraison de son vaccin en Europe? Nous nous interrogeons ce soir sur les raisons de ce qui peut apparaître comme un retard de l'industrie pharmaceutique française en ce domaine. Sur les 13 vaccins arrivés en phase 3 contre la Covid, 5 sont chinois, 2 états-uniens, un allemand, un britannique, un russe, un belge, un canadien et un indien, et pas un seul, a priori, français, même si deux d'entre eux sont testés par le leader mondial contre la grippe, le français Sanofi. Quelles sont les raisons de ce qui peut apparaître comme un retard pour un vaccin annoncé au mieux pour dans un an, mais peut-être y en aura-t-il d'autres d'ici là? Est-ce le signe d'un problème dans la recherche expérimentale ou bien d'un lien difficile entre recherche fondamentale, capitaux privés et publics et industrie pharmaceutique? Nous poserons la question à nos trois invités, à Anne-Marie Moulin, elle est médecin, philosophe, directrice de recherche émérite au CNRS, à Félix Trey, il est membre du conseil d'administration de l'ANRS et responsable du département de virologie à Pasteur, et à l'historien Gabriel Galvez-Béard qui vient de publier aux éditions de l'École des Hautes Études « Posséder la science ».
On est en retard absolument, ce qui ne veut pas forcément dire grand-chose, vous savez, c'est, vous connaissez la fable de La Fontaine, donc on peut être en retard et arriver les premiers quand même. Notre technologie n'est pas plus lente que les autres technologies, mais on prend des précautions, en particulier de tester le candidat dans des modèles animaux précliniques bien avant, en amont des essais cliniques. Alors souvent, les autres ont démarré la clinique en même temps que les essais animaux, ce qui est quand même un petit peu moyen sur le plan éthique.
Mais si le pays de Pasteur progresse plus lentement, ce n'est pas uniquement par précaution. Il y a aussi la problématique du financement.
Alors, de manière générale, la recherche en France est peu financée, sans doute pas assez financée. Et dans le cas de la pharmacie, je pense qu'il faut vraiment raisonner au niveau européen. Si les États-Unis ont pu mettre sur la table, entre guillemets, 15 milliards de dollars pour la recherche Covid, c'est parce que les États-Unis, c'est un grand pays, et que l'Europe, enfin chaque pays européen pris individuellement, n'a pas les moyens, évidemment, de débloquer de telles sommes. En revanche, qu'il y ait une politique européenne sur la recherche pharmaceutique et d'autres aspects, mais puisque là on est sur la pharmacie, ça serait évidemment une très bonne chose.
Voici donc les problèmes posés, pourrait-on dire, en compagnie de Frédéric Tanguy, qui est responsable du laboratoire vaccinal de l'Institut Pasteur, dans un reportage de complément d'enquête, c'était sur France 2, et Nathalie Coutinet, qui est économiste de la santé. C'était un extrait d'un sujet de C'est dans l'air sur France 5. Bonsoir à vous, Anne-Marie Moulin, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous, ainsi que Félix Rey, bonsoir.
Bonsoir.
Et Gabriel Galvez-Béard, bonsoir.
Bonsoir à vous.
Est-ce que, Anne-Marie Moulin, on peut parler justement de retard pour cette industrie pharmaceutique française avec ce cas de la Covid, ou est-ce que cela fait partie d'une façon de se flageller, comme on a souvent l'habitude de le faire en France?
J'ai été très très surprise. Je pense que la recherche française parlait d'échec, ça revient à promouvoir, et je croyais que c'était fini, l'étiquette nationale, la mettre en avant pour le vaccin et pour la recherche. C'est en contradiction complète avec les espoirs placés dans une recherche européenne. Je me souviens très bien, au moment des assises de la recherche, il y a en 2012, que dans la discussion, on avait dit que maintenant, c'était fini, nos laboratoires seraient européens au minimum, et même internationaux, ou ne seraient pas. Donc je m'étonne un peu de la façon dont la question est posée en termes de souveraineté nationale, à l'heure où des accords sont négociés avec les laboratoires pharmaceutiques pour avoir des vaccins répartis en fonction de la population pour l'Europe.
Mais bien sûr, mais vous savez bien qu'effectivement il y a ce discours qui est un discours volontariste, et on peut très bien le comprendre, Anne-Marie Moulin, mais que au bout du compte, eh bien, nos dirigeants politiques, on en a entendu certains dire qu'ils attendraient le vaccin Pasteur parce qu'ils font confiance à Pasteur et la recherche française et pas à d'autres vaccins venant d'ailleurs. Donc il y a évidemment, entre la volonté politique affichée et la réalité du terrain, il y a peut-être une différence, Anne-Marie Moulin.
Mais il y a d'autant plus une différence que vous savez qu'en ce moment, il est question d'une loi sur la recherche, et que cette loi, en fait, entérine plus ou moins un modèle américain, à savoir la mobilité, des projets à court terme, etc. Un modèle qui ne convient pas sur un espace aussi petit que l'Hexagone, où il n'y a pas tant de laboratoires que ça pour se répartir les jeunes chercheurs.
Gabriel Galvez-Béard, vous êtes historien, vous venez de publier un livre tout à fait passionnant qui s'appelle « Posséder la science, la propriété scientifique au temps du capitalisme industriel ». Vous remontez au XVIIIe siècle et vous réfléchissez jusqu'aux années de la Seconde Guerre mondiale à la manière dont justement cette question de la propriété scientifique, qui est propriétaire d'une découverte scientifique, est-ce que c'est le scientifique soi-même, son laboratoire, est-ce que c'est l'université qui l'a payé, est-ce que c'est l'industriel qui va le mettre en œuvre, tout cela, ce sont des questions que vous brassez. Est-ce que cette question que nous posons ce soir vous étonne en termes non pas de nationalisme industriel et pharmaceutique, mais plutôt d'une question de concurrence mondiale, pourrait-on dire, pour pouvoir trouver le plus rapidement possible le vaccin?
Alors, je pense que la réaction d'Anne-Marie Moulin, je la partage en partie. Effectivement, le fait est que la réaction à la crise et la dynamique vis-à-vis du vaccin n'est pas uniquement nationale, mais sans doute globale. Le fait est que il est vrai que, malgré tout, les problématiques nationales restent toujours importantes. Mais au-delà de ça, ce qui me semble important de souligner, c'est que on peut constater, dans la situation actuelle, des partenariats très forts qui s'appuient sur justement cette appropriation de la science, sur les usages de la propriété intellectuelle, mais à travers le monde justement. Et cela fait écho à des pratiques qui étaient déjà existantes dès la fin du 19e siècle.
C'est-à-dire ?
Eh bien, dès la fin du XIXe siècle, en dépit, là aussi, peut-être d'une imagerie qu'on peut avoir, certains, savants n'hésitent pas à prendre des brevets pour protéger leurs découvertes, mais aussi n'hésitent pas à s'en servir pour établir des partenariats avec des industriels ou avec d'autres savants à l'étranger. Et on retrouve aujourd'hui, à une échelle qui est incomparable, il faut quand même le souligner, des pratiques similaires, puisque on voit bien que aujourd'hui tous les débats sur la course au vaccin, se situent en arrière-plan un écosystème, comme on dit, d'entreprises de biotechnologie qui sont à la fois dirigée ou fondée par des scientifiques, mais qui repose aussi sur un usage intensif de la propriété intellectuelle.
Alors on y reviendra avec vous, Gabriel Galvez-Béard, puisque il y a un particulier dans votre livre, la figure évidemment sainte, pourrait-on dire, en termes de scientifiques français, de Pasteur, par exemple, qui n'a pas rechigné, comme vous l'expliquez très bien, justement, à passer des accords avec les industries pour pouvoir industrialiser ces découvertes. Vous êtes là avec nous, Félix Rey, et nous vous remercions. Vous travaillez donc à l'ANRS, l'Agence nationale de recherche sur le sida et les hépatites virales, et vous êtes responsable du département de virologie à Pasteur. Et on se dit, et je citais tout à l'heure Pasteur.
Je suis désolé, j'ai une petite précision. Je ne suis pas responsable du département de virologie.
Ah, pardon,
je suis Pasteur, c'est Madame Van der Werf, Sylvie Van der Werf, qui est aussi responsable du CNR. Ouais. Je fais partie du conseil d'orientation de l'ANRS. Je ne travaille pas à l'ANRS, je suis professeur à l'Institut Pasteur.
Et donc, en tant que professeur à l'Institut Pasteur, vous vous posez la question, j'imagine, de savoir si les découvertes que vous faites dans votre laboratoire vont être appliquées, quand est-ce qu'elles vont être appliquées, et surtout, effectivement, avec ce qui pouvait apparaître aux yeux d'Anne-Marie Moulin comme du nationalisme industriel, si justement Pasteur est en retard par rapport à tous ces laboratoires dont on ne connaissait pas le nom il y a encore 6 ou 8 mois, quand on n'était pas spécialiste de ces questions de virologie, les laboratoires Moderna ou BioNTech, etc., dont on connaît
biotech,
maintenant...
L'Institut Pasteur, justement, c'est une institution de recherche fondamentale, et il y a quelques spring-offs, des petites compagnies qui sont créées par certains chercheurs basés sur des brevets de l'Institut Pasteur. Mais dans ce cas précis, c'est, par exemple, il y a un vaccin qui est développé par l'Institut Pasteur, et qui n'a rien à voir avec le vaccin Sanofi. Donc il y a beaucoup de...
De confusion.
Des confusions.
Parce que Sanofi s'appelle Sanofi Pasteur pour beaucoup de ses produits.
Sanofi utilise le nom de Pasteur pour, et donc et en contrepartie, ils donnent certains financements à l'Institut Pasteur pour pouvoir utiliser ce nom. Mais ils ont leur stratégie est indépendante.
Et la vôtre aussi.
Voilà, exactement. Et donc ce vaccin dont Frédéric Tanguy parlait dans l'introduction, c'est un vaccin qui n'est pas du tout développé par Sanofi. Ils avaient un droit de premier refus. Lorsqu'on brevette quelque chose, on leur propose eux en premier. Et ensuite, il a été développé par une société européenne basée en Autriche, qui a été rachetée par Merck. Et donc, en ce moment, les essais des phases 1 et 2 sont en train d'être menés à bien par Merck, qui, comme vous savez, a un deuxième type. Il y a deux vaccins différents qui sont développés par eux. Mais le titre de votre émission, comme je vous le disais, ouais, je l'ai trouvé, qu'il ne faut pas prendre... C'est un échec, je trouve que c'est exagéré
Je l'entends tout à fait. Non, mais c'était une question un peu provocatrice pour vous faire réagir aussi.
Tout d'abord, je me réjouis des résultats du vaccin de Pfizer et de Moderna, parce que c'est une bonne nouvelle pour tous, y compris pour le vaccin que nous développons à l'Institut Pasteur, parce que c'est exactement le même antigène, c'est-à-dire la même molécule qui va induire les anticorps qui protègent que celle qui est codée par ces ARN messagers. Donc ça veut dire qu'on s'attend à qu'on ait on a des résultats préliminaires qui nous le disent, mais quand il sera fait, ce sera un vaccin qu'on n'aura pas besoin d'être gardé à moins 20 ni à moins 80 degrés. C'est la logistique sera beaucoup plus simple, puisqu'il est utilisé, c'est basé dans le vaccin de la rougeole qui est utilisé partout dans le monde, qu'on sait utiliser, qui a donné et qui prouvé. Donc nous sommes confiants que nous allons aller de l'avant avec quelque chose de très utile.
Anne-Marie Moulin, quand on a le regard que vous avez en tant que directeur de recherche émérite au CNRS, et vous avez travaillé par exemple, dirigé l'aventure de la vaccination chez Fayard, on vous a souvent entendu justement réagir à cette histoire des vaccinations, à la question de la médecine en général. Est-ce que justement, poser cette question, c'est être déjà ou encore dans le 20e siècle et ne pas être dans le 21e siècle, parce que justement ce que vous appelez de vos voeux et ce qui est appelé par beaucoup de chercheurs dans ce domaine, c'est, disons, une mise en commun de la science qui ne tiendrait pas compte justement de cette concurrence industrielle qui est si présente aujourd'hui autour du vaccin contre la Covid.
Oui, précisément, parce que il y a eu un grand tournant par rapport au vaccin pasteurien du début. C'est dans les années 1980 que l'Institut Pasteur a cessé d'avoir une production en tant que telle et a passé la main, si on peut dire, à l'industrie pharmaceutique et aux grands géants des compagnies pharmaceutiques parmi lesquelles, au départ, Pasteur, Mérieux, Sanofi a essayé de faire une timide percée. Donc il y a quelque part un retour à une réflexion sur le fait que, par définition, les vaccins devraient être un bien public global. Et c'est pour ça que j'étais assez choquée de la façon dont vous liez les difficultés actuelles des vaccins avec une récession de la recherche française. On peut l'interpréter comme cela vient d'être fait, par d'abord une certaine précaution. C'est toujours délicat de démarrer une nouvelle technologie dont on n'a pas l'expérience. Et la plateforme avec le vaccin rougeoleux atténué semblait une plateforme assez commode pour insérer au fur et à mesure de l'émergence des virus des nouvelles séquences. Donc quelque part, je pense qu'il faut apprécier ceux qui prennent des risques, mais peut-être aussi rappeler que qui va...
Lentano, c'est ça. Oui, c'est ça. Et bien évidemment, sur ce point, Gabriel Galvez-Béart, cette concurrence internationale qui avait été réglée d'une certaine manière à la fin du 19e siècle, en partie par des congrès internationaux, par la naissance d'une science internationale, etc., n'avait pas mis fin néanmoins à ces concurrences nationales autour des médicaments avec des champions nationaux que chacun voulait voir émerger tout au long du XXe siècle.
Oui, tout à fait, mais je pense que la dichotomie entre concurrence et partenariat est fausse dans une certaine mesure, c'est-à-dire que il y a toujours une forme de concurrence entre les différents acteurs de la course au vaccin, comme vous le rappeliez, mais il y a aussi, de fait, des partenariats qui s'instaurent. Faut-il rappeler, par exemple, que le vaccin développé par BioNTech Pfizer, mais aussi celui par Moderna, partage une même technologie, hein, qui est celle mise au point par Carrico et Weissman, et qui a donné lieu à des accords de partenariat et des accords de licence. C'est ce qui rend d'ailleurs la chose assez compliquée, c'est-à-dire que l'on voit bien que à la fois, enfin que l'appropriation de la science par l'intermédiaire de ces brevets, etc., qui se multiplient, permettent aussi des accords et des dynamiques qui sont très largement transnationales.
Et elles sont transnationales et donc elles ne jouent pas sur cette question de concurrence nationale que nous mettions au cœur de notre discussion. Mais elles jouent sur quoi? Elles jouent sur d'autres ressorts que ces questions de concurrence nationale? Est-ce qu'il y a des concurrences entre scientifiques, entre académies, entre etc., etc.? Ou est-ce qu'au contraire, ce grand milieu de la science que l'on imagine, désintéressé, puisque c'est souvent comme cela qu'il se présente soi-même, n'admet pas justement d'autres concurrences que des concurrences individuelles de tel ou tel chercheur vis-à-vis de tel autre?
Non, je pense que les deux types de concurrence existent, et d'ailleurs il est tout à fait frappant de voir que tous les reportages qui commencent à se développer autour notamment de la figure, alors pas encore sainte, mais en tout cas qui procède d'une forme d'héroïsation de la science, la figure de Catherine Carrico.
C'est un peu comme on a fait avec Marie Curie ou avec d'autres scientifiques du 19e ou du début du 20e siècle, c'est-à-dire effectivement celle qui a eu des difficultés à imposer sa découverte et qui, au bout du compte, se voit récompensée.
Tout à fait. Alors, récompensée, on parle d'elle pour le prix Nobel, mais ce qui est intéressant de remarquer, ce sont les réactions de collègues qui sont aussi des concurrents. Je pense notamment au fondateur de l'autre biotech qui est en course, hein, CureVac, qui conteste une partie de la nouveauté de son apport. Et là, on retombe sur des mécanismes de compétition symbolique, hein, qui font la science depuis, là, pour le coup, plusieurs siècles.
Félix Rey, donc, quand on est chercheur comme vous, est-ce que on est énervé justement par cette façon qu'ont les médias et peut-être nous-mêmes de présenter la recherche de la manière dont nous la présentons, la concurrence, la mise en compétition, pourrait-on dire, des chercheurs ou des organismes de recherche entre eux. Est-ce que c'est autre chose que cela, vu de là où vous êtes?
Je pense que c'est autre chose de cela. Il y a un petit peu de vrai. Il y a une certaine compétition. Il y a des aspects d'être le premier parce que à cause du média. Mais la recherche fondamentale à la base, c'est, comme on dit en anglais, curiosity driven. Nous faisons de la recherche par curiosité de savoir. Et l'important, c'est de savoir à quel moment ce qu'on trouve peut être appliqué et pouvoir vraiment profiter là-dessus. Et peut-être que, en France, il y a peut-être pas suffisamment de moyens avec le chercheur, puisque normalement, le chercheur qui va trouver ne sera pas au courant de toutes les façons de mieux appliquer ou valoriser
sa découverte.
Son résultat. Donc, c'est là où l'Institut Pasteur est en train de faire énormément d'efforts pour que des différents laboratoires puissent avoir accès à quelqu'un qui l'accompagne et qui lui permette de valoriser ses résultats.
Oui, et parce qu'une des questions, évidemment, Anne-Marie Moulin, c'est la question de l'argent. On voit effectivement, comme le disait un des intervenants au tout début de cette émission, dans les reportages que nous avons passés en ouverture, eh bien que, effectivement, quand un gouvernement comme le gouvernement américain met des milliards sur la table, ça peut accélérer justement les applications, pourrait-on dire, de la découverte des scientifiques.
Oui, bien sûr, mais il n'y a pas que l'argent. Je pense, par exemple, que Paris et l'Institut Pasteur exercent une certaine attraction sur les chercheurs étrangers. Mmh. Je voudrais souligner à cet égard que, alors qu'il y a 20 ans, il paraissait complètement impossible d'attirer des équipes entières qui viennent s'installer dans le campus de l'Institut Pasteur, il y a actuellement des équipes qui sont venues en masse s'installer, c'est-à-dire pas seulement un chercheur isolé qui est venu avec une équipe. Et là, c'est un témoignage en faveur d'une d'une mobilité intéressante et où l'attraction de Paris, son attraction intellectuelle, artistique, voire gastronomique, peut jouer un rôle. Donc je crois qu'il ne faut pas, certes, l'argent est un phénomène incontournable, mais qu'il y a aussi une attraction qui peut s'exercer sur les étrangers. Surtout si, et malheureusement ça n'est pas toujours au point, la politique à l'égard des jeunes chercheurs étrangers, visa, aide à l'installation, etc., est à la hauteur de nos espérances.
Eh bien, nous y viendrons dans un instant après cette virgule musicale. Il s'agissait d'un chansonnier, Georges Schaeffer, qui chantait la chanson du timbre antituberculeux pour pouvoir justement permettre de financer les recherches dans ce domaine. C'était après la Première Guerre mondiale.
Oui, pour guérir ces malheureux, souscrivez à l'œuvre admirable du timbre antituberculeux créé par des cœurs charitables. Sauvez ainsi de chers poupons, car le produit de ces vignettes permettra l'application du vaccin du docteur Calmette. Voici le timbre de Noël, au noble appel de tous ceux qui vous le proposent, vraiment lequel pour regarder sa bourse close, et oui, lequel
France Culture.
Songez qu'en versant peu de choses,
le temps du débat
vous rendrez robustes et sains.
Emmanuel Laurentin.
Nos petits hommes de demain, préparez donc plus de vaillance pour notre France.
Georges Schaeffer, vous écoutez le temps du débat. Nous nous posons la question de savoir si le vaccin, et on a compris avec nos intervenants que c'était une mauvaise question, en tout cas qu'elle était mal formulée à leurs yeux, signait l'échec de la recherche française en termes justement de recherche sur le vaccin de la Covid. Gabriel Galvez-Béard, vous êtes historien, vous avez donc ce recul du temps pour pouvoir juger des évolutions de cette question de la recherche et de son application et de son mariage, pourrait-on dire, avec l'industrie. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau par rapport à ce que vous avez étudié sur les deux siècles qui ont été les vôtres, c'est-à-dire dans cet ouvrage Posséder la science sur la propriété scientifique, entre la fin du XVIIIe siècle et la deuxième moitié du XXe siècle? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Qu'est-ce que vous voyez émerger de manière nouvelle? Est-ce que c'est simplement la présence de nouveaux acteurs, la Chine ou d'autres acteurs comme cela, ou peut-être d'autres manières d'envisager justement le mariage entre science et industrie?
Alors, beaucoup de choses à dire vrai, effectivement, et d'ailleurs cette crise nous révèle peut-être, comment dirais-je, l'émergence d'un monde complètement neuf par rapport aux images qu'on peut avoir. Mais je vais répondre à votre question. Bon, tout d'abord, il y a des avancées scientifiques sur le fond, nouvelles, des méthodes nouvelles. On a parlé là, par exemple, des méthodes ARN messager sur la course au vaccin actuel. Mais il y a aussi, comme vous l'avez dit, une relation nouvelle entre la sphère scientifique et la sphère économique. Le monde des biotech est un monde complètement nouveau, même si on peut en faire une histoire assez longue, mais il est vrai que depuis les années 90, au moins, nous sommes dans un monde où les levées de fonds pour ces sociétés de biotechnologie créées souvent par des scientifiques eux-mêmes est quelque chose d'incomparable par rapport à ce qui pouvait exister auparavant. J'ajouterai un autre point, c'est aussi l'aspect global de l'organisation de cette science et en l'espèce de cette mobilisation scientifique avec des acteurs qui ne sont pas seulement des acteurs nationaux, on l'a dit, mais aussi des acteurs transnationaux et notamment des acteurs philanthropiques, quand on pense par exemple au rôle que peut jouer la fondation Bill et Melinda Gates dans le développement d'une stratégie vaccinale à l'échelle du monde. Donc le monde d'aujourd'hui a des échos, fait écho à des phénomènes qui pouvaient exister il y a encore un siècle, mais est un monde sans doute radicalement nouveau en ce qui concerne cette valorisation de la science.
Félix Rey, est-ce que justement porter le nom de Pasteur, d'être dans un institut comme l'Institut Pasteur, c'est à la fois, disons, un honneur, bien évidemment, mais aussi un poids, parce que c'est le poids de cette longue histoire, justement, de la vaccination depuis qu'elle a été mise en œuvre par Pasteur à la fin du 19e siècle, et qu'on attend de vous, on attend de l'Institut Pasteur, des choses particulières, parce que vous portez cette histoire.
Oui, exactement, c'est un petit peu un poids. Oui, c'est effectivement un honneur. Mais en même temps, par exemple, là, le planning de l'Institut Pasteur avec son vaccin, pour cet été en 2021 et le résultat, ça aurait été déjà un exploit comparé au temps qu'il fallait de mettre au point. Donc, mais il se trouve qu'en ce temps...
Vous voulez dire que par rapport à ces 10 ans dont on disait voilà, il y a encore un an, exactement. Il faut 10 ans pour mettre au point un vaccin, là, vous aurez mis oui. peut-être un an et demi ou deux ans.
Plus, mais nous pensons être toujours dans la course puisque on va voir à la fin, avec le coût, les prix, la façon d'implémenter, il faut amener ce vaccin un peu partout dans le monde. On ne pourra pas vacciner que les pays industrialisés qui peuvent se payer le vaccin actuel. Il faudra quelque chose de plus robuste qu'on pourra donner et utiliser.
Un peu partout.
Un peu partout. Donc je pense que.
Vous voulez dire qu'on ne peut pas avoir du moins 80 degrés partout pour pouvoir distribuer le vaccin Pfizer.
Et aussi les prix. On vaccine déjà contre la rougeole. Donc on sait le faire et c'est simplement une modification à un vaccin qui existait déjà. Et qu'on pourra continuer. Donc, je pense que dans ce contexte-là, l'Institut Pasteur a fait un choix qui était un bon choix.
Anne-Marie Moulin, certains, et on entendait tout à l'heure une économiste de la santé qui le disait, se disait, mais tout compte fait, puisqu'on ne peut pas mobiliser au niveau national, et vous le disiez vous-même, la totalité de ces sommes pour pouvoir faire développer rapidement des nouveaux vaccins très originaux, eh bien, il faudrait peut-être passer à l'échelle européenne. Mais est-ce que c'est plus qu'un vœu pieux? Est-ce qu'il y a une possibilité, justement, d'un vrai travail collaboratif à l'échelle européenne et que cette échelle devienne pertinente?
Ah, je crois qu'il y a eu un choc quand on s'est aperçu que le principal souci des pays d'Europe était de réélever leurs frontières et de se garder les uns des autres. Je crois qu'il y a eu une sorte de choc psychologique et actuellement est mise en chantier, semble-t-il pour de bon, ce qu'on pourrait appeler une Europe de la santé.
Oui.
Et l'Europe de la santé, c'est bien entendu d'abord une Europe de la vaccination. Donc je pense que là, quelque part, on a parlé de choc salutaire. Je n'aime pas trop cette idée, mais c'est vrai que le Covid a été l'occasion de se rendre compte que l'Europe, en tout cas celle de la santé, ne fonctionnait guère.
Est-ce que, Félix Rey, il n'y a pas aussi une difficulté dans la façon dont on perçoit la recherche aujourd'hui en France, qui tiendrait justement à cette recherche par objectif, par appel d'offres, parce que, en fait, en tant que chercheur, vous savez très bien qu'on peut découvrir par accident, c'est ce qu'on appelle la sérendipité, ou c'est assez commun aujourd'hui que de le dire, et que donc il y a une recherche qui se veut gratuite et qui finit peut-être par aboutir, alors qu'on n'avait pas perçu les applications qu'on pouvait en faire.
Exactement, je pense que c'est vraiment une erreur d'essayer de faire des thématiques, se focaliser, se dire on pourra avoir des avancées comme ça, mais les applications, les meilleures applications, souvent ils viennent des domaines complètement différents. Par exemple, sur les RNA silencing, c'est des chercheurs qui regardaient des virus qui changeaient la couleur de fleurs dans des œillets, par exemple. Il y a eu des applications bio-industrielles énormes. Ici, c'est très difficile de trouver des financements pour se dire, parce qu'on dirait que le chercheur veut s'amuser à regarder ça et pourquoi financer ça. Et pareil, madame ARN messager,
oui.
À l'époque, elle était considérée comme quelqu'un qui faisait ça pour s'amuser, mais on ne voyait pas l'impact que ça pourrait avoir. Et donc, c'est pour ça que, par exemple, la France pourrait investir, réfléchir d'avoir un budget beaucoup plus consistant pour la recherche fondamentale, en même temps qu'avoir des objectifs précis. Mais avoir cette espèce de poule à côté qui lui permet d'avoir des applications qui sont tellement nécessaires.
Anne-Marie Moulin, sur ce point.
Je pense qu'il y a toujours eu des appels blancs, c'est-à-dire des appels, au fond, à des chercheurs qui doivent démontrer leur originalité et leurs bonnes intentions. Et je pense que c'est une bonne chose. Des appels à projets trop cerclés, trop polarisés, risque de passer à côté de choses importantes, comme a très bien expliqué le collègue. Et je pense en particulier qu'il y a des recherches qui ont été abandonnées, par exemple les recherches des vétérinaires sur les coronavirus, qui il y a une vingtaine d'années ont été abandonnées, estimées sans intérêt. Et je pense que ce flottement et cette chance donnée à des esprits originaux est toujours quelque chose de très positif. Et d'ailleurs, à cet égard, je suis choquée, quelque part, que le BCG soit attribué au seul Calmette, car Guérin, le vétérinaire, était aussi indispensable pour faire réussir le BCG.
Vous parlez à quelqu'un qui a grandi dans un lycée qui s'appelait Camille Guérin, donc j'en sais quelque chose, effectivement.
Ah
Félix Rey.
Oui, tout à fait, vous avez raison, des appels blancs ont toujours existé, mais le montant est extrêmement faible. Quand on voit les sommes en Allemagne ou même en Angleterre avec le Wellcome Trust, ils sont des sources, ils peuvent financer des projets beaucoup plus larges et beaucoup plus vastes et beaucoup plus ambitieux que ce que nous pouvons ici, l'ANR, à ce rôle-là. Mais son budget est trop restreint, malheureusement.
C'est ce que disait d'ailleurs la prix Nobel de chimie très récemment, la biologiste Emmanuelle Charpentier, disant qu'elle ne pourrait pas développer ses recherches en France, malheureusement, disait-elle. Gabriel Galvez-Béard, sur ce point, justement, sur cette question de pénurie d'argent, est-ce que c'est quelque chose qui correspond aussi à ce que vous avez pu voir avec ces puissances industrielles qui étaient aussi des puissances coloniales? C'était la France, c'était l'Allemagne avant 1914, c'était la Grande-Bretagne, etc., qui avaient des moyens pour pouvoir investir dans la recherche dans cette période-là, ou pendant la guerre, la Première Guerre mondiale, évidemment, parce que ça fait partie aussi de cette histoire de la science que d'avoir été financé par des budgets militaires, comme vous l'expliquez dans Posséder la science, Gabriel Galvez-Béard.
Alors, en ce qui concerne, si je puis dire, la période haute, celle que vous évoquez, et notamment avant la Seconde Guerre mondiale, il faut bien parler d'une période où les budgets de la recherche sont, comment dirais-je, beaucoup plus négligeables que ceux qui existent aujourd'hui. On est à un moment quasiment héroïque, pourrait-on dire, où les chercheurs, justement, cherchent à convaincre les autorités de constituer ce que Pasteur lui-même appelait un budget de la science.
Mais ils essayent et ils y parviennent parce qu'il y a aussi une vision du progrès, une vision de en particulier en France, de la République qui veut aussi développer la question de la science comme étant la science républicaine aussi. Ça fait partie aussi de la mythologie qu'on essaie d'instaurer.
Tout à fait, mais c'est en tout cas en France et avant la Seconde Guerre mondiale, c'est une longue marche, si je puis dire, une longue lutte. Les choses s'améliorent au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, mais cela conduit aussi à ne pas négliger les financements privés qui ont pu exister. Le fait est que, en ce qui concerne, et c'est d'ailleurs la question qui structure votre émission. Le fait est que depuis en tout cas plusieurs décennies, on s'est toujours plaint en France d'une pénurie de moyens pour la recherche publique, comparé à d'autres pays comme l'Allemagne par exemple ou les États-Unis, où rappelons-le, les crédits fédéraux sont extrêmement importants dans cette irrigation du système de recherche états-unien.
Anne-Marie Moulin, est-ce qu'il n'y aurait pas aussi dans ce regard porté sur la recherche appliquée, pourrait-on dire, et sur l'industrialisation des découvertes, eh bien, est-ce qu'il n'y aurait pas aussi une critique qui aurait profondément pénétré, par exemple, tous les débats sur l'industrie pharmaceutique que l'on voit ressurgir aujourd'hui avec le refus du vaccin, par exemple? On peut être fini aussi par, faire d'une opinion publique, une opinion publique beaucoup moins intéressée ou beaucoup moins favorable à ces développements scientifiques.
Ah, il est certain que la découverte que c'est une histoire d'argent a considérablement aliéné, je pense, une partie de nos concitoyens à la science. La mesure où ils sont persuadés que quelque part, pour beaucoup d'entre eux, l'industrie pharmaceutique est presque capable d'inventer le virus pour pouvoir fourguer son vaccin. C'est là, évidemment, une déviation très ennuyeuse, mais quelque part, elle provient du fait que le soupçon que le vaccin, qui effectivement est devenu très cher dans les années 1980, avant le vaccin, les vaccins pasteuriens étaient pratiquement pour rien. Ouais. Tout d'un coup, Merck a mis le vaccin contre l'hépatite, je me souviens plus, à $200 ou quelque chose comme ça. Ouais. Ce qui veut dire en particulier que les pays comme le Sénégal, qui avaient participé aux essais cliniques de ce vaccin, n'ont pu accéder au vaccin que 15 ans plus tard. Et c'est encore un scandale éthique qui fait mal à la population sénégalaise.
Sur ce point, Félix Rey, est-ce que vous croyez, par exemple, que cette nouvelle agence sur les maladies affectieuses émergentes qui va naître, c'est ce qui a été annoncé par Frédéric Vidal, qui prendra une partie de l'Inserm Reacting et qui le mariera avec la NRS, vous y travaillez aussi, et qui sera dirigée par l'infectiologue Yazdan Pana, peut justement, par les moyens qui seront mis, donner un élan à ce développement de la recherche?
Le peut, si les moyens y sont au rendez-vous. Par exemple, l'ANRS a été vraiment très efficace dans la recherche contre le sida, et ça a été une façon de maintenir la France. Quand vous comparez le budget de l'ANRS à ce que c'est on est dépense aux États-Unis, il y a pas de comparaison, il y a des ordres de magnitude, et les chercheurs français ont été présents grâce au soutien de l'ANRS. Alors, ce qu'il faudrait voir, c'est que l'argent de loi ne soit pas dilué, que ça aille aussi aux maladies émergente, ce qui faisait peur à beaucoup de participants. Mais je pense que bien géré, et Yazdan Pana est tout à fait conscient, c'est une évolution vraiment nécessaire et importante. Et surtout, pour sortir de réagir, le mot reacting, il fallait réagir, sinon anticiper aussi.
Oui, parce que c'est une des questions qu'on pouvait se poser. Est-ce que la France était prête justement à cette arrivée de ces maladies émergentes qu'on connaît maintenant depuis une vingtaine d'années?
Oui, on voit qu'à chaque fois, j'étais à la crise de chikungunya d'abord, et ensuite il y a eu H1N1, et ensuite il y a eu Ebola, il y a eu Zika. À chaque fois, on court après les événements.
Il faut une agence comme ça
Exactement, et pour essayer de voir quels sont les pathogènes qui peuvent apparaître, quel est le socle de connaissances indispensables à savoir pour pouvoir être prêt quand il y en a un qui arrive, de développer un vaccin le plus vite possible, le diagnostiquer, tout ça. Et cette agence pourra nous donner la possibilité, surtout si l'ANR est bien financée, qu'il fasse la recherche fondamentale ample, large, à côté.
Anne-Marie Moulin.
Je trouve qu'il y a quand même un saut extraordinaire de l'ANRS, qui a quand même été une agence qui a fait des choses que on n'aurait pas soupçonné possible à propos du VIH et de l'hépatite. On saute tout d'un coup à une agence, c'est le grand écart, qui s'occupera de toutes les émergences. Et j'avoue que là, s'il n'y a pas un budget à la hauteur, on n'aura pas fait un pas de clair.
Oui, et donc effectivement, l'idée, et c'est ce que vous dites et redites tous les trois depuis le début de cette émission, c'est que la recherche ne vaut que si on s'y investit de façon large et intense pour pouvoir permettre justement de développer des nouvelles recherches qui permettent peut-être de voir arriver des maladies émergentes et de les contrer lorsqu'elles arrivent. Merci à tous les trois, merci à vous Félix Rey d'être venu dans cette émission pour nous expliquer que peut-être effectivement on pourrait attendre l'année prochaine un vaccin issu de l'Institut Pasteur dont on n'a pas encore beaucoup parlé ces temps-ci dans les médias. Merci de nous l'avoir dit. Merci à vous Anne-Marie Moulin d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous avez dirigé l'aventure de la vaccination chez Fayard et également chez Odile Jacob, le médecin du prince voyage à travers les cultures. Et puis merci à vous Gabriel Galvez-Béard. Je recommande chaleureusement votre livre Posséder la science, la propriété scientifique au temps du capitalisme industriel. C'est extrêmement précis justement sur la manière dont les scientifiques ont passé des accords justement avec des industriels, ont aussi développé l'idée qu'il y avait effectivement une propriété scientifique à défendre pour défendre leurs intérêts. Merci à tous les trois, c'est publié aux éditions de l'École des hautes études en sciences sociales. C'était le temps du débat, Chloé Cambrelin, Iman Gilles, également Louise André, Rémi Baille et Hugo Boursier pour cette émission de ce jour. À la technique, Jérémy Kaufmann. À la réalisation, Alexandre Manzanares. Dans le temps du débat demain, nous allons parler du Brexit, l'accord post-Brexit. Est-ce que cela signifie qu'il y a un perdant? Ça sera la question que nous poserons demain à nos invités. Et ce seront les mêmes invités que nous avions reçus dans une émission Brexit. C'était il y a exactement un an. On pourra comparer ce qu'ils nous disent aujourd'hui à ce qu'ils nous disaient il y a un an.